Et pour ce premier micro-festival, nous parlons de liberté, de la condition humaine et du documentaire de Jyoti Mistry, réalisé en 2017, un film expérimental de 10 minutes. Daniel, tu l'as vu pour nous et tu as croisé dans les allées du jardin de Montbenon un citoyen lausannois d'origine ivoirienne. Il court ce monsieur, mais après quoi ?
Le cinéma. Cinéphile, le cinéma est le 7e art, pour nous dire, l'habite depuis sa plus tendre enfance. Il se souvient des films de karaté qu'il découvrit dans les salles d'Adjamé, un quartier populaire d'Abidjan. Puis, adulte, il commença à s'intéresser au cinéma africain. Il garde un souvenir ému du film Ablakon, sorti en 1984, du réalisateur Roger Nioam Bala et de Balle Poussière de Henri Duparc, sorti en 1988, dans lequel a joué sa tante chérie Thérèse Taba. Fier de ses racines africaines, le film de Jyoti Mistry l'interpelle par sa mise en scène et son message. Notre échange commence par le cinéma ivoirien et sa perception du développement du cinéma africain.
Il y en a deux. Après les indépendances, on va dire que le cinéma africain n'existait pas en tant que tel. C'était plutôt des documentaires faits par des Européens. Et comme la plupart des pays africains avaient des gouvernements avec parti unique, donc il n'y avait pas de démocratie, il était impossible que l'art puisse refléter les réalités que les populations vivaient. Donc on va dire c'est à partir des années 80 que, quelque part, les autorités ont permis que le cinéma puisse se développer. Sinon, avant cela, ce qui marchait vraiment bien, c'était des pièces de théâtre, puisque là, on connaissait déjà l'œuvre de l'écrivain. C'était en général des écrivains africains. Donc, c'était des histoires sur le mysticisme africain, sur l'histoire africaine, sur la culture africaine. Donc, c'était un peu plus acceptable pour les autorités au pouvoir.
Quel regard portez-vous sur l'évolution du cinéma africain ces 20 dernières années ?
Alors, on va dire, on est parti en Côte d'Ivoire de films comme Ablakon, qui parle des jeunes de la rue qui sont des petits truands, qui font des petites malversations pour s'en sortir parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ça met en exergue aussi l'acteur principal qui part de la ville, qui est également un escroc, mais à une autre échelle, donc qui va au village pour croire aux gens, en fait, qu'il est un haut responsable, un haut cadre dans la capitale. Et donc, tout ça, c'est une façon de pouvoir les escroquer. On va dire, ce film-là a permis quand même d'ouvrir le cinéma ivoirien en particulier sur le monde. Après ça, on a eu Balle Poussière qui a été vraiment une fête, une reconnaissance internationale de Henri Duparc qui malheureusement n'est plus. Ablakon est de Roger Nioam Bala. Donc on va dire ce sont deux figures du cinéma ivoirien qui nous ont vraiment marqués. Après ça, on va dire avec les années 90, quand il y a eu l'ouverture et la fin du multipartisme, donc le début du multipartisme, ça a permis, on va dire, au pays de s'ouvrir également culturellement. Donc les artistes se sont lâchés et le cinéma est vraiment parti dans tous les sens en parlant de tous les sujets qui touchent réellement à la vie des populations.
Que pensez-vous de ce film expérimental sud-africain de Jyoti Mistry, When I Grow Up, I Want to Be a Black Man?
Alors, ce petit documentaire fait un flashback sur l'histoire, on va dire, depuis quelque part l'esclavage, ensuite la colonisation, la recolonisation et pour l'Afrique du Sud, l'apartheid, pour montrer un petit peu l'évolution de la domination blanche sur les populations africaines. Il montre, on voit beaucoup d'images d'archives, on voit également l'acteur traverser une petite rivière, aller au-dessus d'une montagne, mais tout ça, c'est un petit peu pour ne pas montrer de façon linéaire le rapport qu'il y a eu de domination, de massacre, d'imposition d'une culture étrangère sur les populations d'Afrique noire par les Européens.
En quoi ce film, finalement, montre la dualité de l'identité de l'homme noir sous toutes les latitudes ?
Oui, d'une certaine façon, mais ce qui est le plus marquant, c'est de dire que l'Africain au sud du Sahara a une résilience à nulle pareille. Parce que malgré l'esclavage, malgré la colonisation, malgré la recolonisation, malgré le capitalisme, l'imposition, la domination des multinationales, etc., l'homme noir est toujours debout, il regarde toujours devant lui, il continue d'avancer, il ne s'arrête pas au passé, même s'il est douloureux, il regarde toujours vers l'avant, il s'intègre au monde qui est autour de lui et il essaie d'en sortir quelque chose de positif.
Pourquoi est-ce qu'on a encore le sentiment que l'homme noir court après une liberté qui n'est pas légitime ?
Non, la liberté est légitime, mais la liberté que recherche l'homme noir, ce n'est pas la liberté, on va dire, des chaînes de la justice ou politique ou autre. La liberté que recherche l'homme noir, c'est la réécriture de l'histoire de l'humanité pour le remettre à la place qui lui revient. C'est la réécriture des rapports entre les différents continents pour lui redonner tout le respect qui ne lui est pas dû. Donc c'est une façon de crier haut et fort « nos vies comptent, notre humanité est importante » et comme on dit aux États-Unis, « Black Lives Matter ».
Because the most difficult thing on this side of the universe.